J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire de la résonance, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui part se promener en forêt pour retrouver la nature et ses bruits loin du vacarme de la ville. Elle attend ce moment depuis longtemps. Partir marcher en suivant simplement le rythme de sa promenade, en se laissant enfin être, simplement être. Elle attend depuis longtemps l'heure de se retrouver, d'habiter le monde à nouveau, cette nature qui lui parle, qui chante, ou plus exactement, qui vibre. Mais ce matin-là, elle ne sait pas pourquoi, la rencontre n'a pas lieu, le charme n'opère pas. Pourtant, il a neigé, toutes les conditions sont réunies pour une féerie, mais voilà, ça ne résonne pas. Comme si elle n'entrait pas en relation avec la nature, comme si elle n'entrait pas en relation avec elle-même. Pourquoi ? Est-ce qu'elle l'a trop attendu ? Est-ce qu'elle l'a trop voulu ? Elle s'agace devant les branches des sapins illuminées de blanc de songer encore à toutes ces choses à faire, sa to-do list. Elle s'agace que le monde ne lui réponde pas, mais il faut dire qu'elle ne lui parle pas. Elle n'arrive pas à être là. Le lendemain matin, elle retrouve son bureau, ce vaste open space dans lequel les collaborateurs sont séparés par de petites vitres. Elle s'y est rendue à reculons, comme vous peut-être, chers auditeurs, hier matin, en ce 2 janvier. Et maintenant, tout est gris. Le ciel par la fenêtre, comme le formica des plans de travail. Tout est gris, et pourtant. Il a suffi d'un regard amusé, de cette question adressée à sa voisine de bureau, et de cette lueur dans ses yeux tandis qu'elle lui répond, montrant qu'elle a saisi le sous-entendu ironique. Il a suffi de ce rien qui n'est pas rien, et une belle énergie se met à circuler entre elles, comme un fluide qui transforme l'instant et les transforme elles-mêmes. Il aura fallu ce rien pour qu'elle trouve finalement la résonance qu'elle cherchait en vain la veille au cœur de la forêt. C'est que la résonance ne se décide pas, elle ne se commande pas, elle ne se programme pas, on ne la place pas entre 5 et 7 dans son agenda. Pour en parler ce matin, de cette résonance qui nous fait tant de bien et est peut-être le remède à l'accélération de notre temps, j'ai la joie de recevoir Hartmut Rosa, le grand sociologue et philosophe allemand, écrivain et professeur comme Hegel en son temps en l'université d'Iéna. Hartmut Rosa, auteur notamment de « Accélération » et de « Résonance », qui nous a rejoint ce matin dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon, mais je ne doute pas qu'il aurait préféré que ce soit celui de Merleau-Ponty, pour nous aider à répondre à cette belle question. Comment entrer en résonance ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Hartmut Rosa.
Bonjour.
Et bonjour Marguerite Capelle d'être là pour nous aider à faire l'interprète.
Bonjour.
Alors je vais vous poser la question frontalement. Comment on fait pour entrer en résonance ?
Yeah, I mean, this is already a difficult question.
Eh bien, c'est déjà une question difficile pour commencer.
For me, it's important that we do not do
pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas faire quelque chose pour entrer en résonance. La résonance, ce n'est pas quelque chose qui commence par un acte de notre part. C'est quelque chose qui nous arrive. De mon point de vue, de la façon dont je le vois, c'est toujours quelque chose qui nous appelle, mais qui exige que nous nous ouvrions. Que nous nous autorisions à être touchés.
Alors, ça me rappelle cette phrase du poète allemand Hölderlin, « Viens, ami, entre dans l'ouvert ».
Yes, I think Hölderlin might be a good starting point.
Oui,
I
mean, c'est un bon point de départ.
I think the main prerequisite.
Mais je crois que le principal prérequis pour entrer en résonance, c'est un certain habitus, c'est une disposition au monde, c'est une ouverture. Que j'appelle parfois l'appelabilité, la capacité à laisser quelque chose pénétrer votre armure et notre habitus qui est d'habitude fermé.
C'est très joli ce que vous avez dit, vous avez parlé d'appelabilité. Ça veut dire que je dois être capable d'entendre un appel.
Yes, I think this experience of being called.
Oui, je crois que cette expérience de se sentir appelé peut arriver via différents canaux. Ce qui est assez évident pour les humains, c'est que nous pouvons ressentir une forme de résonance avec d'autres êtres humains. Normalement, ça passe par le regard ou par la voix. Quand on voit les yeux, le coup d'œil que quelqu'un vous donne, quand on entend sa voix vous parler, ça nous appelle de façon tout à fait littérale. bilatéral. Donc c'est assez simple d'imaginer, raisonner avec quelqu'un. Il ne s'agit pas simplement de communiquer, il s'agit vraiment de s'ouvrir et de se laisser être touché par ce que dit l'autre. Mais ce qui est un petit peu différent dans ma vision, c'est que je pense que nous entrons dans ce type de résonance, de disposition d'écoute, de réception, avec des objets aussi.
Oui.
Nous sommes des êtres physiques, nous avons un corps, et c'est la même chose avec du bois, avec de la pierre, même avec du texte. Nous pouvons entrer en résonance avec un texte. Et le troisième axe que j'appelle vertical, qui est plutôt l'axe existentiel, c'est définir nos façons d'entrer en relation avec le monde en tant que totalité, la vie, l'univers, en tant qu'être humain. Nous avons besoin de nous sentir connectés à cette réalité ultime, cette réalité qui englobe tout, qu'on peut baptiser le cosmos, la vie, la nature. Nous cherchons à être en lien et parfois nous avons le sentiment d'un univers silencieux ou hostile et à d'autres moments nous avons le sentiment qu'il y a une forme de réponse qui se passe.
Ça.
Et c'est ce que j'appelle la résonance verticale.
C'est quand le monde me répond qu'il y a résonance. Si le monde ne me répond pas, s'il reste silencieux, parfois, il y a ça chez Camus, il nous dit que le monde reste silencieux. Je voudrais lui parler, je voudrais l'appeler, mais il ne répond pas.
C'est aussi une expérience qu'on a tous, hein, bien sûr, je ne veux pas la nier. Parfois, nous nous sentons profondément seuls dans l'univers. Camus était un formidable écrivain quand il s'agissait de parler de ça, mais Nietzsche aussi, le philosophe allemand, dit que parfois, nous avons l'impression d'être une étoile projetée dans le vide, dans l'espace, le vaste espace de l'univers, qui est sourd et muet et rien ne nous répond. Je crois que l'existence humaine se passe entre ces deux pôles d'expérience, cet univers silencieux et aussi cet univers qui vous répond. Mais c'est important pour moi qu'il y ait une quatrième dimension au-delà de cette réalité ultime, qui est cette résonance avec soi-même qu'on peut avoir parfois. Il nous arrive aussi d'ailleurs d'être silencieux à nous-mêmes.
Et d'ailleurs, vous le dites très bien dans votre livre, d'ailleurs la première phrase de votre livre Résonance, c'est « Si le problème est l'accélération, alors la résonance est peut-être la solution ». Et on voit bien que notre monde dans lequel tout s'accélère, notre monde dont Max Weber, que vous avez beaucoup étudié, disait qu'il est désenchanté, notre monde caractérisé par ce que Marx appelait l'aliénation, on a l'impression qu'on peut sortir de tous ces problèmes avec votre belle proposition existentielle de résonance. Mais j'ai l'impression que pour vous, il n'y a pas de résonance si je ne me laisse pas traverser. C'est-à-dire si la carapace, au fond de mon identité, ne se laisse pas un petit peu fissurer. D'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui, dans un temps de crispation identitaire, ce ne serait pas une belle solution que de laisser les choses résonner, c'est-à-dire de laisser sa carapace identitaire se fissurer enfin un peu?
Yes, I think maybe it's a good point to get it, right?
Oui, je pense que c'est tout à fait juste. La résonance, ce n'est pas seulement l'harmonie, l'union ou l'identité, on pourrait parler de ça. C'est le sentiment qu'il y a quelque chose de différent au sens d'Adorno, le philosophe allemand, c'est-à-dire justement ce qui n'est pas identique, ce qui ne correspond pas tout à fait. J'adore citer Leonard Cohen, le chanteur américain, qui dit qu'il y a une faille et que c'est en tout et que c'est ça qui fait rentrer la lumière. C'est ce sentiment que quelque chose à l'extérieur nous appelle qu'on ne comprend pas complètement.
Alors ça, c'est très important, parce que ça veut dire que autrement, on pourrait mal comprendre votre thèse. On pourrait se dire Hitler a raisonné avec le peuple allemand. On pourrait se dire Trump raisonne puisqu'il dit au peuple américain « Je suis votre voix ». Mais en fait, ça n'est pas ça, parce que ce que vous dites, c'est que pour qu'il y ait résonance, il faut qu'il y ait une altérité qui soit supposée et que justement on résonne tout contre, en contact avec l'autre, avec le différent, avec le surprenant, avec le dérangeant.
Yes, this is totally important for me because
I mean,
of course, one might think at first
that there was a lot of resonance for Hitler or with Hitler. Par exemple, qu'effectivement Hitler ou Trump entraient en résonance très fortement. Mais à mon sens, il ne s'agit que d'écho. Et la différence entre l'écho et la résonance, c'est que la résonance nécessite justement, exige cette différence. Il y a une voix qui n'est pas la même et quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne domine pas et même qu'on ne comprend pas. pas tout à fait. La résonance exige de garder, de conserver sa différence.
Pour être sûr, je vous interromps parce que je voudrais être sûr que nos auditeurs comprennent bien la différence qui n'est pas évidente au premier abord entre l'écho et la résonance. C'est que dans l'écho, au fond, je n'entends que ma propre voix se multipliant dans l'espace. Alors que dans la résonance, je me mélange à la voix de l'autre.
Yes, absolutely. I think the
oui,
dream,
absolument.
So to speak, of the,
je pense que le rêve du populisme d'extrême droite, hein, si on peut parler de rêve, c'est qu'il n'y ait qu'une seule voix, et qui ne serait d'ailleurs même pas la mienne, ce sera la voix du leader. Il y a eu un moment très important où Donald Trump a accepté sa nomination, il a fait son discours d'investiture, je crois que c'était en 2016, et il a parlé des gens qui étaient oubliés, qui n'était jamais entendu, qui n'était jamais vu, en disant « je suis votre voix ». Et donc il y a une promesse de résonance, vous allez être entendu et je vais m'adresser à vous, mais ça veut aussi dire « taisez-vous » en réalité. « Je suis votre voix », ça signifie qu'il n'y en aura qu'une. Et donc c'est une différence très claire entre l'écho et la résonance.
Bien sûr, et c'est ça qui est très beau dans votre philosophie de la résonance, c'est que c'est une philosophie de l'altérité. On imagine que le modèle, bon, d'ailleurs la métaphore est musicale, que le modèle c'est un groupe de musiciens qui s'écoutent, qui se répondent. Pour qu'il y ait résonance, il faut que quelqu'un m'adresse une question et que je lui réponde, et que chacun sorte de son espèce de confort identitaire pour rentrer dans un monde commun. Et j'aurais envie de dire, mais dites-moi si je me trompe, il faut que ça vibre en fait. Il faut que ça vibre ensemble, sans que nécessairement on comprenne tout, mais qu'il y ait une vibration commune.
Yes, I think this is very important.
Oui, je crois que c'est très important.
Sometimes people think that the
parfois,
opposite of resonance
les gens pensent que le contraire de la résonance est la dissonance.
But that's completely wrong. The opposite
mais c'est totalement
of
faux.
Consonance, right?
Le contraire de la dissonance, c'est la consonance.
Is exactly in between the two,
la résonance
right?
est exactement au milieu, entre les deux.
Right?
Il faut de la dissonance.
By the way, that's true for music, right?
De la même manière que pour la musique. Si vous avez une consonance parfaite, c'est-à-dire un son unique, c'est très ennuyeux, c'est même plus de la musique. Nous ne faisons l'expérience de la musique que parce qu'il y a des tonalités différentes qui se superposent et qui sont parfois justement à l'opposé l'une de l'autre. Les distorsions de la guitare dans le rock, par exemple. Et c'est ça qui vous donne la sensation musicale. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de voir que la résonance est exactement ce qui fait le pont entre l'altérité et l'identité. Pour qu'il y ait résonance, il faut qu'il y ait différence, altérité.
There is a chance, there is a bridge you can
C'est une occasion de toucher l'autre, mais seulement au prix de se transformer. Il faut accepter de changer son identité dans cette connexion temporaire à l'autre.
Au fond, ce que vous dites aussi, si je le dis avec d'autres mots, peut-être auxquels les Français sont plus habitués, c'est que pour qu'il y ait une véritable rencontre, tout simplement, et ce qui va distinguer cette rencontre d'un simple croisement, souvent on croise des gens, on dit « très heureux de vous avoir rencontré », mais on ne les a pas vraiment rencontrés. Pour qu'il y ait rencontre, si je vous ai bien lu, il faut que je sois transformé. Il faut que quelque chose en moi change, peut-être pas tout, et que quelque chose en toi change aussi.
Yeah, this is why I actually have this third element in
Oui, c'est pour ça que j'ai ce troisième élément de résonance. La première chose, c'est l'affection, quelque chose qui me parle. La deuxième, c'est la réponse, la capacité à répondre. Mais la troisième, c'est vraiment la transformation. Si je m'ouvre et que je vous laisse entrer, en quelque sorte, que je laisse entrer votre voix en moi, ça a un effet transformateur. Je ne serai pas exactement le même à l'issue de cette situation. Et donc, ça implique aussi une forme de vulnérabilité. Et ça signifie que j'autorise deux choses. Je m'autorise à être touché par quelque chose que je ne contrôle pas et qui est totalement autre. Et je vais aussi être transformé d'une façon que je ne peux pas contrôler. Donc la résonance, c'est vraiment une forme d'ouverture et de prise de risque et de vulnérabilité.
Alors imaginez, je vous donne un petit test de situation existentielle. Vous parlez à un de vos amis qui vient de tomber amoureux d'une femme, et il dit « Mais alors, j'ai compris ta théorie, il y a rencontre, si j'ai changé, il faudrait que cette altérité résonne en moi. Mais bon, je t'aime, mais moi j'ai pas changé. J'écoute toujours la même musique, je vote toujours de la même façon, je fais toujours la cuisine pareillement, j'aime toujours les mêmes positions sexuelles, et pourtant, je t'aime. » Qu'est-ce que vous lui répondez s'il n'a pas changé, mais qu'il se prétend amoureux?
Je crois que parfois j'ai des doutes sur l'étendue de cette transformation. Quand on aime quelqu'un, normalement, on change et on est prêt à ça. Sinon, ce n'est pas vraiment de l'amour.
C'est quoi alors? C'est quoi? Un contrat?
Yes, you could call it a contract also.
Oui, on pourrait parler de contrat. Si vous tombez réellement amoureux, vous trouvez l'autre tellement important que vous avez envie de ce changement.
Et
je pense vraiment que c'est un des fondamentaux de la vie, de se laisser toucher et transformer.
Oui, d'ailleurs, c'est ça l'aventure. Et je me souviens que vous aviez expliqué dans un livre précédent que la modernité, pour vous, commençait avec l'esprit chevaleresque.
Yeah, exactly. L'aventure, it was called, right?
In the Middle Ages, the idea that Moyen Âge, l'idée de partir à l'aventure dans le monde, prêt à rencontrer des choses qui sont complètement hors de votre contrôle. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver, mais vous cherchez ça. Bruno Latour, le grand anthropologue français, a dit, c'est le moment où on se sent vivant.
Bien sûr.
Le moment où on se laisse toucher et transformer. Mais je crois qu'il y a aussi un problème théorique. Je ne sais pas à quel point cette transformation doit être durable. Il peut y avoir une rencontre réellement qui vous questionne, qui vous bouleverse, qui vous transforme, que ce soit avec la musique, les montagnes, l'océan, une personne. Mais peut-être que quand vous rentrerez chez vous, vous serez la même personne. Donc
alors,
ces transformations.
Mais on pourrait peut-être dire entre les deux que c'est pas d'un côté j'ai changé durablement, complètement jusqu'au bout, ni je reviens à la case départ, mais simplement je me suis ouvert en moi à une dimension de moi que je ne savais pas avoir. On pourrait parler d'un agrandissement de l'intériorité sans que ce soit ni le retour à la case départ, ni le changement durable.
Oui, je pense que ça a toujours à voir avec cet axe de la résonance personnelle. On découvre de nouvelles parties de soi, de nouveaux espaces. C'est presque comme ouvrir ces nouveaux espaces. Mais comme on l'a dit au début, quand j'ai écrit ma thèse sur Charles Taylor, je pensais qu'une identité stable était un point extrêmement crucial. Mais maintenant, je me dis qu'il ne s'agit pas forcément de découvrir de nouvelles choses sur soi, mais en fait de découvrir de nouvelles possibilités, celles de pouvoir changer et de ne pas être obligé de rester toujours le même.
Et oui, en vous écoutant, j'ai deux idées et on va les faire résonner en écoutant ce premier morceau de musique. C'est que peut-être la seule chose qui est stable, c'est le mouvement, et que peut-être il n'y a de résonance que dans la polyphonie.
Entre le glaive et le vide, entre le diable et l'ange, aux formes rebondies, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. De tous les noms que l'on crie, entre le jour et la nuit, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance.
C'était Mon cœur balance, Philippe Catherine.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Hartmut Rosa et c'est un véritable plaisir de parler avec vous de cette résonance, cette espèce de solution que vous proposez comme ça dans notre monde qui s'accélère, notre monde qui fait peur, notre monde de crispation identitaire, notre monde de bulle d'entre-soi, notre monde, pourrait-on dire aussi avec Marx, d'aliénation ou avec Max Weber, de désenchantement. Eh bien, nous avons un horizon grâce à vous, c'est la résonance. Alors j'ai envie de vous dire, Hartmut Rosa, est-ce que c'est une philosophie romantique ?
I mean, I think it clearly has some romantic
bien,
elements.
Oui, je pense qu'il y a des éléments romantiques là-dedans. Les romantiques ont longtemps pensé des alternatives à notre rapport instrumental au monde. Je dirais que dans la tradition romantique, il y a cette tentative de surmonter justement cette pensée identitaire ou en tout cas cette fermeture instrumentale au monde.
Kind of always defining the objectives
of our lives. Toujours défini les objectifs de nos vies. Les romantiques avaient cette envie d'atteindre une façon alternative d'être en lien avec cet univers. Et je cherche la même chose. Mais ce n'est pas romantique au sens nostalgique ou sentimental. Parfois, quand on utilise le mot romantique, c'est ça qu'on veut dire. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne parle pas. On n'a pas de prise sur la réalité difficile que nous vivons, et donc c'est pas romantique au sens là.
Oui, j'entends bien. Et puis vous êtes aussi sociologue. D'ailleurs, c'est ça qui est très beau dans votre travail, c'est qu'on a l'impression parfois qu'il y a comme presque une métaphysique au fond, et que l'être est cela même qui résonne, comme aurait pu le dire Heidegger ou Merleau-Ponty. Et en même temps, vous êtes sociologue également, et donc vous avez une philosophie de la résonance dont vous voulez qu'elle s'applique à la société aussi.
Oui, je crois que ce qu'il y a de bien avec ce concept de résonance ou de précieux, c'est que ce n'est pas un fantasme ou une utopie romantique, c'est une réalité quotidienne. Les êtres humains n'ont pas besoin d'apprendre la résonance. En tant qu'êtres humains, nous savons ce que c'est. Quand nous regardons nos bébés grandir, le moment où ils deviennent sujets, ça se passe aussi par un processus de résonance.
Bien sûr, mais la question que ça pose, c'est est-ce que la véritable résonance, elle n'est pas avant les mots ? Elle n'est pas infra-langagière. D'ailleurs, c'est aussi peut-être là que la musique se déploie. Et du coup, la question des romantiques est bien là. C'est est-ce qu'on va pouvoir, avec des mots, avec de la raison, du langage, des raisonnements, et non pas de la résonance, est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette résonance ? C'est une vraie question romantique, d'ailleurs.
Yeah, but I think it's definitely true. I mean, there has been since the time of the Greeks.
Oui, je pense que c'est tout à fait vrai depuis l'époque des Grecs et sans doute même avant. Nous nous demandons ce que c'est qu'un être humain. Et il y a eu des réponses comme un animal doué de langage ou de raison ou d'un sentiment de possession et d'une envie d'avoir des choses. Tout ça, c'est vrai, mais avant même d'être des animaux dotés de langage ou de sentiment de possessif, nous sommes aussi des animaux qui résonnons. Et même quand nous vieillissons et même quand nous perdons cette capacité au langage, nous restons des animaux résonnants. Donc je pense que c'est vraiment une façon primordiale d'être au monde.
Oui, tout à fait. On peut avoir d'ailleurs un rapport aux mots qui est simplement rationnel, instrumental, comme on peut avoir un rapport aux mots qui est plein d'une résonance poétique. D'ailleurs, vous ouvrez votre livre majeur, Résonance aux éditions de la Découverte, par un poème de Heinrich Heine, justement. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire réagir à une autre citation d'Adorno et que vous avez évoquée tout à l'heure rapidement. Pensez-vous, comme Adorno, qu'il suffit d'écouter le vent pour savoir si l'on est heureux ?
Yeah, I like that idea very much. Right?
Oui, j'aime beaucoup cette idée.
It's the basic feeling we have.
C'est vraiment ce sentiment, cette émotion fondamentale. C'est cette idée que quand on se réveille le matin, quand on se réveille d'un sommeil profond ou qu'on a été inconscient, la première impression qu'on a, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, quelque chose qui est présent. Merleau-Ponty parle de ça. On n'est pas tout à fait capable de dire si c'est ici ou là, mais il y a une forme de présence. Ça, c'est vraiment l'expérience fondamentale au réveil. Et la question, c'est comment est-ce qu'on définit ces sentiments? Est-ce que c'est, quel type de relation est-ce que c'est? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que ça fait peur? Et dans ce cas-là, on se referme tout de suite face à ce qui menace. Ou est-ce qu'au contraire, c'est une sensation agréable, joyeuse? Ah, quelque chose est là, quelque chose me touche, m'appelle. Et ça nous dit beaucoup sur nos relations au monde et nos relations dans le monde, cette différence-là. Et quand on se réveille au milieu de la nuit, comme le suggère Adorno, quand on entend le bruit du vent, la question, c'est vraiment, quelle est cette perception et quelle est cette relation fondamentale qu'on entretient au monde à ce moment-là? En tant que sociologue, pour moi, ça dépend des conditions sociales.
Alors j'entends aussi autre chose dans ce que vous venez de dire. C'est que finalement, pour savoir qui je suis, pour savoir si je suis heureux, il faut que je sois en contact avec autre chose que moi, à savoir le monde, à savoir le vent. Ça peut être aussi toi, une autre subjectivité dont je tombe amoureux. Et ça me rappelle ce très beau poème de René Char qui disait en substance, si tu ne prends pas le risque de sortir de toi, de risquer cette irruption dans le dehors, au fond, tu ne pourrais jamais savoir qui tu es vraiment.
That's very interesting and true. But
c'est très intéressant et juste, mais si on n'entend pas une voix either, right? qui vous appelle de l'extérieur, on n'entend pas la sienne non plus, et on devient sourd et muet. C'est exactement ce que j'appelle aliénation. Et je pense que la pire forme d'aliénation, c'est le burn-out. Mais il n'est pas suffisant de sortir. Parce que vraiment, ce sur quoi j'écris, c'est cette disposition de vouloir toujours faire quelque chose. Donc par exemple, les gens... effectivement, vont vers le monde, ils vont aller faire une croisière pour aller voir le pôle Nord, pour avoir la garantie de voir les aurores boréales. Ça ne vous garantit pas qu'il y aura une forme de résonance. Ce n'est pas juste la tentative, l'effort de sortir, c'est vraiment l'expérience qu'il y a quelque chose de valable là-dedans et que ce qui vous appelle est une source de cette valeur. Charles Taylor parle d'évaluation forte, c'est le moment transcendant, où il y a quelque chose d'important en dehors de moi. C'est comme ça que commence la résonance.
Mais d'ailleurs, ça peut tout à fait arriver, ce contact avec cette chose importante au dehors de moi, cette résonance, ça peut tout à fait arriver alors que je speed dans la hâte. Il faut bien comprendre, je crois que c'est important de le préciser pour nos auditeurs, que entrer en résonance, ça ne veut pas nécessairement dire ralentir.
That's absolutely right. I mean, I do think that time scarcity is a kind of resonance killer.
Je pense que le manque de temps a tendance à tuer la résonance. Parce que si je suis à court de temps, que je cours derrière un avion, je ne me laisserai sans doute pas appeler par un enfant, le soleil ou un morceau de musique. Il faut que je me presse. Et je crois que nous vivons dans une réalité où nous sommes toujours un petit peu en train de courir pour aller prendre un avion. Donc, du coup, nous ne sommes pas appelables.
Ouais.
Mais quand je parle de résonance, je parle de ce moment d'incontrôlabilité et d'indisponibilité. Rendre le monde indisponible est l'un des titres de mes livres. Cela signifie qu'on ne peut jamais complètement s'en débarrasser. Et la résonance arrive souvent au moment où on ne s'y attend pas. Ce n'est pas forcément quand on la cherche. Ce que nous avons fait dans nos vies, c'est que nous avons tenté de créer des espaces bien précis où nous serions prêts à la résonance. Par exemple, nous allons au concert et nous attendons la résonance ou nous allons nous promener dans la forêt, comme l'histoire que vous avez racontée au début de l'émission. Ou nous allons à l'église parce que nous voulons être en résonance. Ce sont comme des petites oasis isolées et en fait, parfois, on va à l'église ou au concert et on ne trouve pas la résonance et on ne ressent rien. Donc cette dimension incontrôlable, ce sont ces failles dont nous parlons, ces failles qu'il y a en tout dont parlait Leonard Cohen.
Bien sûr.
Et c'est ça vraiment le potentiel. Parfois, ça peut même, dans des situations très déprimantes, la seule fleur qui reste au milieu des ruines, qui peut-être nous touchera beaucoup plus profondément en termes de résonance.
Alors j'ai entre les mains ce très joli petit livre de vous, « Rendre le monde indisponible ». Mais ça me permet de revenir sur une question que j'ai posée tout à l'heure. Il y a quand même des choses qu'on peut faire pour se rendre aussi indisponible. Je prends un exemple concret. Vous savez, parfois, on a des bons souvenirs, mais en fait, au lieu de les laisser résonner en soi, en fait, on est juste nostalgique parce qu'on est appelé comme ça encore par la vie quotidienne, par la dictature des choses à faire. Mais imaginez que vous ayez un bon souvenir et que pour le laisser résonner, vous décidiez d'éteindre votre téléphone, de vous mettre en mode avion. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être des petites choses à faire pour se rendre disponible à cette résonance.
Yes, I mean, you know, what I always like to say is that we cannot manufacture,
en général,
we cannot bring about resonance.
Nous ne pouvons pas fabriquer la situation de résonance, nous ne pouvons pas la déclencher. Il n'y a quasiment rien que nous ne puissions faire. C'est comme l'amour. On ne peut pas se forcer à aimer. C'est quelque chose qui se produit ou pas. Mais comme vous l'avez dit, nous pouvons essayer de créer les conditions qui nous permettent d'être appelables, d'être disponible, d'être dans une humeur ouverte à cet appel. Donc, par exemple, éteindre son téléphone peut être une bonne idée. Pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes presque en permanence en mode alarme, c'est-à-dire que nous sommes en permanence alertes et prêts à recevoir les messages du monde, les appels du monde. Et dès qu'il y a une pause, un moment de silence, on a ce réflexe d'aller sur le téléphone. C'est quelque chose qu'on a complètement intégré. Donc, créer une disposition d'ouverture, ce que j'appelle vraiment l'attention grand angle,
qui
est une manière de s'ouvrir au monde presque physique. On le sent dans notre corps. Quand on est collé au téléphone, on sent que le corps se concentre presque comme s'il essayait de se réduire à la taille de notre pouce et de notre œil. Alors que quand on marche dehors, on sent le corps et l'esprit s'ouvrir et c'est une bonne situation pour la résonance.
Quand j'ai dit tout à l'heure, entrer en résonance, ça n'est pas nécessairement ralentir, ça n'est pas nécessairement décélérer, ça n'est pas nécessairement faire l'apologie du slow life ou du slow sex. J'avais une idée en tête, c'est que si on dit aujourd'hui aux gens, pour sortir de l'aliénation et de l'accélération, vous devez partir 10 jours en Inde ou 2 mois dans le désert, ils le feront jamais. Ils le jugeront impossible. Mais si on leur dit, au cœur de votre vie agitée et accélérée, vous pouvez trouver des caisses de résonance en étant attentif, en écoutant l'autre, en vous mettant en mode avion ou en étant attentif au regard de l'autre pendant même une seconde. J'ai l'impression que c'est important de dire ça, de dire qu'on peut même très rapidement retrouver de la résonance.
Yes, I mean there are these small openings,
oui,
right? These moments.
Ces petites ouvertures, ces moments, la résonance, c'est toujours une expérience temporaire. J'aime ce poème de Baudelaire qui s'appelle, je crois, Une passante, à une passante, où il parle du fait de croiser quelqu'un dans la rue et il suffit d'un seul coup d'œil, quelque chose qui le touche profondément pour que ça se produise. Donc oui, la résonance ne dépend pas forcément uniquement du ralentissement. Et le bore out, d'ailleurs, est modelé sur le burn out.
Bien sûr.
Donc, l'idée de ralentir sur les connexions, Internet, etc., ce n'est pas forcément ça qui nous offrira la résonance. Peut-être que ce sera tout le contraire. Néanmoins, il y a une forme de disposition au monde qui est nécessaire et qui peut être effectivement attaquée par la vitesse, mais aussi par un ralentissement extrême.
Eh bien, on va écouter maintenant pour faire résonner tout ça. Danger de Olivia Dean.
I'm not afraid to die. nature. Loving you is too easy. Oh, it looks like I'm in danger.
C'était Danger d'Olivia Dean.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Hartmut Rosa, philosophe et sociologue allemand, théoricien de l'accélération, de la résonance, qui nous invite à rendre le monde enfin indisponible. Ça fait du bien de sentir cette présence au monde. Hartmut Rosa, j'évoquais précédemment votre très beau petit livre « Rendre le monde indisponible » qui commence par l'irruption de la neige qui tombe. Parlez-nous un peu de la neige qui tombe.
Yeah, I love snow a lot. Right?
Oui, j'adore la neige.
As a person, I was born dans la forêt noire.
Je suis née dans la forêt noire et j'y vis toujours. Donc, à titre personnel, la neige est très importante pour moi. Mais je me rends compte que la neige, c'est vraiment un excellent exemple, le meilleur exemple qui soit de cette indisponibilité et cette incontrôlabilité du monde. Déjà, parce que quand j'étais petit, je voulais toujours qu'il neige. Et j'en ai encore envie chaque année, en début janvier en particulier. Mais en fait, on ne peut pas le décider. Et je ne peux rien y faire. Et puis, bien sûr, parfois, on essaye. On produit de la neige artificielle maintenant, avec des canons à neige. Sauf qu'on se rend compte que ce n'est pas la même chose. Elle est différente. Ce n'est pas du tout cette neige qui est un cadeau du ciel et qu'on reçoit et qui donne vraiment un sentiment de transformation du monde, comme si le monde d'un seul coup devenait très doux et silencieux et était complètement transformé tout en restant en mouvement. À Jena, on travaille en ce moment sur les questions de propriété et en fait la neige est aussi quelque chose qu'on ne peut pas garder et qu'on ne peut pas posséder. Quand j'étais petit, je voulais la garder, la mettre au congélateur, mais ce n'était pas la même expérience. Quand on la ramenait à la maison, elle fondait, et puis quand on la mettait au congélateur, ce n'était plus de la neige. Donc il peut y avoir une expérience très intense, très pénétrante avec la neige, et on ne peut pas la contrôler.
Elle est silencieuse, mais elle vibre quand même.
Yeah, the silence is very important. I mean, it's very interesting.
Oui, le silence,
when you walk
très
outside,
important.
Right, and it starts to snow, it's really
quand
kind
on
of
sort et qu'il commence à neiger,
taking away the sound from the world, right?
C'est comme you can, si d'un seul coup tous les sons du monde disparaissaient. On entend presque ce bruit très doux de la chute de neige.
About the desert fathers, the Christians.
J'ai écrit un jour quelque chose sur les ermites, les pères chrétiens qui allaient dans le désert pour méditer.
They discovered that silence
speaks. Et je me souviens avoir lu quelque part qu'ils ont découvert à ce moment-là que le silence parlait.
Ouais.
Et c'est vraiment un moment très intéressant pour moi. Le silence peut parler, c'est quelque chose qu'on entend quand il neige.
Et ça, c'est la dimension verticale de la résonance. C'est un ermite tout seul, en rapport avec le monde, en rapport avec le ciel, en rapport avec le cosmos.
Yes, for me, this is kind of, I call it vertical or existential because
it parle de résonance verticale ou existentielle parce que ça fait le lien entre notre réalité la plus intime et la réalité la plus externe à nous. C'est presque comme une prière. En tant que sociologue, j'étais presque un peu perdue quand je me suis demandé, quand quelqu'un prie, est-ce que cette personne est tournée vers l'intérieur ou vers l'extérieur ? Et la réponse à cette question est dans les deux sens à la fois, dans les deux directions en même temps. C'est justement un sentiment de connexion, de ce qu'il y a de plus intime en soi avec ce qu'il y a à l'extérieur. Et bien sûr, la neige vient du ciel, donc c'est vraiment une réalité totale. Et la transformation est extrêmement vivace, ça transforme le monde dans lequel vous vivez et ça transforme aussi en même temps votre humeur.
En vous écoutant parler si joliment de la neige, je me souviens d'une scène troublante que j'ai vécue. La première fois où mon chat a vu la neige tomber par la fenêtre. Et là, j'ai eu l'impression d'une expérience de décentrement, parce que j'ai vu qu'en fait, il ne comprenait pas, parce qu'il n'avait jamais vu ça. Et en même temps, j'ai eu l'impression un petit peu de voir la neige avec ses yeux de chat, de devenir un peu chat. Est-ce que ce n'est pas aussi ça la résonance ?
Yeah, I'm pretty sure that is resonance. You know, I really realize that even
qu'il s'agit effectivement de résonance. Je crois que même quand nous aimons les gens ou que nous les observons, nous avons une sensibilité qui nous permet de voir justement la résonance entre les gens et les choses et entre les chats et les choses. Au passage, je pense qu'un chat est un axe de résonance en soi. C'est peut-être d'ailleurs le seul sens de la présence d'un chat comme animal domestique, c'est qu'il vous offre une forme de résonance.
Vous voulez dire plus que les chiens?
More than dogs?
No, I think it's. I mean, of course, no. I think
non, bien sûr que non. Je pense que c'est la même chose avec les chiens, mais c'est un petit peu différent. Parce que ce qu'il y a avec le chat, c'est qu'ils ont cet esprit complètement indépendant. On ne peut jamais les contrôler. Alors que le chien, on n'est pas tout à fait votre esclave, mais il est quand même beaucoup plus centré sur vous. Les gens possèdent un chien, on ne peut pas posséder un chat.
Très
c'est cette altérité indépendante qui est si intéressante.
Et ça ne m'étonne pas, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais ça ne m'étonne pas que vous préfériez les chats aux chiens, parce que ce qu'on comprend en lisant votre philosophie, c'est que l'expérience de la résonance n'est pas une expérience, au fond, d'autonomie. Au contraire, l'autonomie n'est presque pas le but. C'est bien de se sentir décentré et de se sentir presque dépendant et de jouer la vérité de son être dans le rapport à autre chose que soi, finalement, dans une sorte de belle dépendance, pourrait-on dire.
Yes, absolutely. I mean,
Resonance
means being in contact with something.
Ça veut dire être en contact avec quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc, ça signifie abandonner une forme d'autonomie. Je trouve ça très important. Un des problèmes de notre culture contemporaine, pour moi, c'est que nous sommes en permanence en train de rechercher une autonomie, une autodétermination. Ça, c'est très clair. Mais quand on repense aux moments les plus heureux de notre vie, c'est généralement tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. Et en général, les gens vous parlent des moments les plus importants de leur vie et ils disent « j'ai pas pu m'en empêcher, j'avais prévu de faire autre chose et puis il s'est passé quelque chose et j'étais complètement impuissant. » Et j'ai dû me laisser aller, m'abandonner. Et donc cette perte d'autonomie est un élément central de la résonance. Se laisser complètement dépasser par quelque chose, bouleversé.
Et
Adorno, dans sa théorie critique, qui insiste tant sur l'autonomie, quand il parle d'expérience réelle, ça contient aussi cette idée d'impuissance, quasi-impuissance, de se laisser complètement dépasser, envahir par quelque chose.
Est-ce que vous diriez, Hartmut Rosa, que la seule véritable rencontre est la rencontre de ce qu'on n'attendait pas?
Yes, I mean, for me,
oui.
Resonance has always a transgressive
element. Pour moi, la résonance a toujours une dimension transgressive.
It definitely goes beyond
ça
your
signifie que ça va forcément
right?
au-delà de vos attentes.
Zone, but not by,
on pourrait parler de quitter
right?
sa zone de confort, mais pas nécessairement de façon volontaire. Right? Encore une fois, je suis très sceptique à l'idée d'agir pour provoquer.
Maybe
c'est une rencontre.
Pas
forcément avec l'inattendu, mais en tout cas avec une composante. Inattendu, par
oui,
exemple, ça peut être une rencontre avec mon chat, mes enfants ou la personne que j'aime, mais dans cette expérience, il y a quelque chose qui se passe qui va au-delà des attentes que j'avais. Et c'est cette transgression dont je parlais. Par exemple, si vous avez un groupe préféré, des gens, par exemple, sont fascinés par Beethoven ou au contraire par Metallica, la résonance, c'est le moment où vous l'écoutez d'une manière différente, comme si vous l'écoutiez sous une forme différente, comme vous ne l'aviez jamais entendu auparavant. Et c'est la même chose quand les gens ont une forme de résonance avec un livre, ça peut être la Bible ou le Capital de Marx, mais on le relit et ça vous redit quelque chose à chaque fois que vous ne saviez pas.
Donc au fond, la résonance est toujours une surprise.
La résonance a tout à fait une composante de surprise.
Et au fond, quand même, votre théorie laisse présupposer qu'au fond de la vie, il y a de la vibration. Et non pas quelque chose de figé, et non pas quelque chose de fixe. C'est vrai que dans l'histoire de la métaphysique, il y avait deux grands courants, un courant plutôt, on va dire, parménidien, l'être est immobile, éternel, c'est comme le ciel des idées de Platon, paix à son âme. Et de l'autre côté, le mouvement, Héraclite, Nietzsche. D'ailleurs, Nietzsche disait que le fond de la vie est musique. Alors est-ce que pour vous, l'être, avec un grand E, c'est précisément ce qui résonne ?
Yes, I'm inclined to say yes. Right?
Oui,
I
j'ai envie de répondre oui.
It, right? It's really true.
Je pense qu'au fond, c'est tout à fait juste. C'est exactement le type de mouvement, se réapproprier justement cette dynamique. C'est exactement ça qui nous donne cette sensation, cette compréhension de la vie.
Je pense que
le grand danger qui menace notre rapport au monde, c'est cette idée de vouloir fixer les choses. J'ai écrit dans mon livre sur l'aliénation et l'accélération que ma principale inquiétude, c'est cette idée d'immobilisme frénétique. C'est une idée en fait de Paul Virilio, un écrivain français. On parle en fait d'une réalité sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où on doit se précipiter en permanence, mais sur place. Alors qu'individuellement, à titre individuel, nous sommes bloqués. C'est comme si nous n'avancions plus. Donc, je me demandais ce que serait l'opposé de cette immobilité frénétique. Et ce serait une forme de mouvement silencieux. Et je crois que c'est ça qu'il faut redécouvrir.
Vous écoutant, il me vient à l'idée que peut-être la souffrance, c'est de ne pas rencontrer de résonance au sens où j'appelle, mais on ne me répond pas, finalement. Et c'est ça la solitude, non ?
Calling and not getting any answers, right,
is oui, for appeler me a state of et ne rencontrer aucune réponse, c'est un état d'aliénation pour moi. C'est ce que les gens connaissent et ce qui les fait souffrir. C'est ce qu'on voit en politique quand les gens ressentent une forme d'aliénation vis-à-vis du monde politique. Ils ont le sentiment qu'ils ne s'adressent pas à eux et qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Et l'aliénation, ça conduit au burn-out et à la dépression. C'est une façon d'être au monde qui réduit au silence tous les axes de résonance. On ne s'entend pas soi-même, on n'est pas en lien avec soi-même, on n'est pas en lien avec les autres, ni avec les choses, et on a le sentiment que le monde, l'univers est silencieux. Cette absence de réponse, cette perte des réponses, c'est ça le problème de notre époque.
J'ai l'impression que c'est cette souffrance que chante Kurt Cobain. Alors c'est très troublant, je vous ai fait écouter Kurt Cobain parce que il est seul, il crie sa souffrance, Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, mais en même temps le monde entier résonne avec lui, mais lui il se sent seul. Alors, est-ce qu'il n'y a pas parfois un malentendu aussi dans la résonance ? D'ailleurs, Kurt Cobain finira par se suicider, ne supportant pas que sa voix résonne si mal à ses propres yeux, comme s'il était trahi par une immense résonance de son travail.
Oui,
la résonance, ça ne veut pas juste dire répondre n'importe quel type de réponse. Par exemple, aujourd'hui, nous communiquons tout le temps. Donc, nous avons énormément de formes de résonance, au sens où les gens nous répondent. Même quand on se fait insulter sur Internet et qu'on se prend une tempête de merde, c'est une forme de résonance. La résonance, c'est une relation qui va dans les deux sens. Je suis ouvert à ce qui vient à moi, mais j'ai aussi cette forme d'efficacité qui me permet aussi d'aller vers l'autre, non pas pour obtenir une réponse précise, mais pour sentir cette forme de vibration, cette connectivité transformatrice. Hannah Arendt, la philosophe, parle d'un moment de natalité, un moment où on écoute, on réagit et on entend que quelque chose de neuf est en train de naître. Kurt Cobain, lui, il avait le sentiment justement, ce qu'il a vécu, c'est que le neuf n'arrivait pas, ne naissait pas. Il y avait énormément de résonance au sens où il y avait beaucoup de disques vendus, mais il n'y avait pas cette connexion créative.
Et d'ailleurs, ce que vous dites en évoquant Hannah Arendt, quand quelque chose de neuf est en train de naître, est-ce qu'au fond, c'est pas une définition de la politique ? Quand on inaugure un temps nouveau, une manière nouvelle de raisonner ensemble ?
That's really my interpretation and my take
la façon
on politics,
dont je
right?
l'interprète et c'est ma vision de la politique.
Politics,
c'est une compréhension républicaine de la politique. En particulier quand on parle de démocratie, la démocratie signifie qu'on se rencontre dans cette disposition de résonance. Je rencontre quelqu'un qui me parle potentiellement et qui a quelque chose à me dire qui me transformera. Mais ça signifie aussi que j'ai une voix pour m'adresser à vous dans cet échange. Dans une société, bien sûr, il y a beaucoup de gens. C'est presque comme un orchestre. C'est une conception finalement assez musicale de la démocratie. C'est cette idée d'écouter et de répondre. Et nous avons deux problèmes politiques principaux dans nos sociétés, qui est d'abord que tout le monde veut avoir une voix, mais pas nécessairement d'oreille. Alors que moi, je pense qu'avoir une voix, ça va aussi avec le fait d'écouter. J'aimerais prendre l'exemple du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui dit « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Et je dirais que c'est la même chose aussi pour les oreilles. On n'entend bien qu'avec le cœur. Donnez-moi un cœur qui entend. Et on oublie que la démocratie, c'est aussi ça, entendre, écouter. Et la politique, on la voit comme une sphère de conflit, d'antagonisme. Et si vous voyez l'autre comme un ennemi, vous ne parviendrez jamais à la résonance. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on repense la politique dans un sens orienté vers la philosophie d'Hannah Arendt.
Eh bien, merci beaucoup, Hartmut Rosa. C'était un plaisir de vous écouter, d'entendre votre voix et notre échange résonner. J'espère que nous sommes entrés en résonance. J'ai essayé pour cela de ne pas trop me fixer aux questions que j'avais préparées. Un dernier mot peut-être, c'est qu'en vous écoutant, et ce sera une façon de faire votre portrait, j'entends aussi cette belle phrase de Montaigne qui dit que la parole appartient pour moitié à celui qui parle et pour moitié à celui qui écoute. Et pour nos auditeurs, je voudrais résumer la philosophie qui est la vôtre. Alors, une philosophie de la résonance, et ce qui est très beau, je trouve, c'est que vous êtes autant dans la métaphysique que dans la sociologie, finalement. On voit que vous venez de Merleau-Ponty, de cette idée que nous sommes au monde, que nous habitons le monde, et qu'il y a quelque chose d'assez indémêlable. Il n'y a pas de frontière très nette entre le moi et le monde. Et puis, on sent que vous arrivez après sur la scène sociale, sur le terrain social. Et je crois savoir que vous nous préparez un grand travail à venir sur l'énergie sociale, la manière dont nous pourrions ensemble faire résonner nos liens et les tisser dans une interaction qui s'appelle peut-être précisément la politique. Hartmut Rosa, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Cette émission a été très bien préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap. Elle a été réalisée par Antoine Larcher et Maria Pasquet, avec à la technique Théo Delabadère. À la traduction, c'était vraiment génial, cette traduction simultanée. Marguerite Capelle à la musique, merci beaucoup, Valentine Chedebois. Quant à moi, je vous retrouve demain matin, à 9h précisément, sous le soleil de Platon, avec une star de la psychothérapie québécoise, Pascal Brion, après avoir eu une star de la philosophie allemande. À demain.